Bonsoir. Pendant une session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, dans son discours, le président Joseph Kabila demande des sanctions à l'endroit des États qui violent la souveraineté des autres États. Concertation nationale, des avis continuent à diverger quant aux recommandations des uns et des autres dans les groupes thématiques de gouvernance. La forme de discorde reste la question des gestions consensuelles de l'État. Tels sont les termes de ce soir dans le de la presse. Autour de cette table, nous avons Fidèle Moussangou, il est coordonnateur du journal Le Soir, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Fidèle Moussangou.
Bonsoir confrère.
Joachim Diana, il est éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir.
Et Charles Moukendi, rédacteur en chef à la radio-télévision de Debout Kassai, mettant des films Bujumaï au Kassai oriental. Bonsoir Charles Moukendi.
Bonsoir confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. Discours de Joseph Kabila à l'Assemblée générale des Nations Unies, concertation nationale, la question de la gestion consensuelle divise au sein du groupe thématique et gouvernance. Comment la presse a analysé ces différentes informations? Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le discours du président Joseph Kabila à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Afrique News annonce, à la tribune de l'ONU, Kabila Toise Kagame. Le président de la République, Joseph Kabila, a cogné mercredi à la tribune de l'ONU en dénonçant les agressions sans fin de son voisin rwandais dans l'est du pays, explique le journal. La tempête tropicale ajoute que Joseph Kabila a dénoncé les agressions sans fin du Rwanda. Kabila a rappelé une double réalité souvent méconnue ou occultée, à savoir que c'est pour avoir posé un acte de solidarité en accueillant sur son territoire des réfugiés originaires du Rwanda que les populations congolaises de l'Est de son pays sont privées de paix. Le SAR renchérit, Joseph Kabila exige des sanctions contre l'Ouganda et le Rwanda. Joseph Kabila a expliqué que si les Nations Unies, en plus des condamnations qu'elles prononcent contre les forces négatives, leurs parrains, pouvaient passer aux sanctions, le peuple congolais pourrait retrouver rapidement une paix durable et s'atteler aux actions de développement. La référence plus parle de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le chef de l'État congolais a déclaré que l'avènement d'une paix durable dans la région des Grands Lacs dépend de la fin de l'impunité et de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parlons concertation nationale. Forum des As questionne concertation nationale, cohésion ou partage du pouvoir. À quoi peut-on s'attendre à la fin de cette rencontre. Le journal explique que l'idée d'un nouveau gouvernement taraude les esprits de plus d'un participant à ce forum. Quel contenu en donne-t-on? Seuls les concepteurs du projet peuvent dire quelque chose. Pour l'avenir, les concertations nationales sont le lieu indiqué pour la quête de la cohésion. Certains observateurs constatent que quelques hommes politiques veulent transformer les concertations en un lieu de règlement des comptes, a argué le journal avant d'ajouter que la recherche de la cohésion nationale requiert un effort de la part de chaque Congolais pour transcender et surmonter ce qui divise au profit de ce qui rapproche. Terminons par le potentiel qui révèle pour sa part que les groupes armés retardent la clôture des concertations nationales. Il semble que la participation des groupes armés aux concertations est allée au-delà de la qualité d'experts. Ils ont pris une part active aux travaux selon des sources au sein des sous-commissions.
Merci Alain Hirong. Commentaire Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur du journal Le Soir, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La qualité, c'est aussi les médecins affiliés au syndicat Sinamed qui continuent à observer leur mouvement de grève et débuté depuis le 2 septembre dernier.
Mais il y aura combien de grèves? Et au moins, ils ont la chance de gréver parce qu'ils travaillent. Mais nous, les journalistes, nous allons gréver quoi? Vous travaillez où? Donc, ils ont le bourreau, vous allez voir, hein, ils auront les mêmes avantages comme les professeurs d'université. Ils grèvent, ils grèvent, on finit par mettre leur salaire à 2000, 2500, ils rentrent, donnent les cours. Ceux qui donnent les cours, d'autres sont des débrouillards ici au centre-ville, comme consultants ici, politiciens à gauche, à droite. Donc, alors, les médecins, ils auront, même des voitures, ils en auront. Ce pays va ressembler comme à une...
Il y en a qui en ont,
oui, nous allons avoir un pays comme Corée du Nord, hein, un uniforme. Ça, c'est pour les médecins. Ça, ils ont des véhicules uniformes, parce que ceux qui commencent les véhicules ont des pourcentages, ils ont des dons. C'est un pays bizarre. Hein. Au lieu de dire, monsieur, bon, les véhicules coûtent par exemple 30 000 dollars, voici, on vous donne une ligne de conduite, une ligne de crédit de 100 000 $. Commandez tel véhicule, nous allons payer. Voilà comment on fait. Il y aura plusieurs véhicules. Non, un individu importe 400 véhicules, et il reçoit 10 véhicules comme en dessous de la signature, et il vous le vend à un prix exorbitant avec une combine avec le vendeur. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que vous trouvez même les entreprises publiques d'État. Quelqu'un importe 15 bus. Alors, les gens apparaissent comme des. À l'époque de la patente, il y a des bus pour des GDA, bus pour le SIDA, bus pour ceci, des véhicules pour l'Assemblée, pour le professeur. Ça, c'est vraiment une vaste comédie.
Merci. L'autre actualité, c'est le troisième rapport de la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, selon lequel la situation des droits de l'homme s'est nettement détériorée de novembre 2011 à mai 2013, ici au Congo.
La situation des droits de l'homme au Congo, ça commence depuis Mobutu. C'est toujours détérioré de jour en jour. Combien de fois on a attrapé des militaires à l'Est, auteurs de viols des femmes, des milliers de femmes décédées, sans compter les maïmaï créés par Kigali et Kinshasa. Combien de fois ici à Kinshasa, on a assassiné Gilbert, mon neveu Kisaya, Sedea, on a assassiné 6 journalistes, dont lesquels il y a un neveu à moi, Maïche. Ouais, donc, et mon copain de tous les jours, n'est-ce pas, je vous dis, ça fait, sans compter un collaborateur du PAR, quand on assassine des journalistes, quand on assassine des Français droits de l'homme, quand on viole des femmes à l'Est, ce sont des crimes contre l'humanité, crimes de toujours en temps de guerre. Donc ce qui se fait maintenant, comme il y a la guerre, ce sont des crimes imprescriptibles. Ceux qui les commettent seront jugés.
Merci, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Les médecins disent attendre le retour du chef de l'État avant de reprendre le travail.
Mais oui, c'est un peu curieux. Moi, j'ai toujours dit en ce qui concerne les médecins que la meilleure façon aujourd'hui, c'est d'aider le peuple congolais à ne plus avoir ce problème, c'est de privatiser tous les hôpitaux publics. Parce qu'en fait, le fait que ces hôpitaux soient publics n'apporte absolument rien. Vous y allez, les consultations coûtent cher, et on vous envoie pour aller dans les pharmacies, il n'y a pas de pharmacie publique où on va acheter à moins cher. Vous allez dans ces hôpitaux, il n'y a pas de comptabilité, donc ces hôpitaux ne font aucune recette, mais ils émargent obligés de l'État régulièrement. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de privatiser ces hôpitaux. Cela aura comme conséquence que la rigueur pour tout le monde, les médecins seront bien payés, ils seront obligés de travailler et être payés au prorata du service qu'ils rendront effectivement. C'est pas quelqu'un qui est à l'hôpital pendant 2 heures et tout le reste de la journée, il est dans sa clinique privée et à la fin du mois, il en fait. C'est parce que maintenant que les hôpitaux publics sont fermés, leurs cabinets privés sont remplis. On ne peut pas continuer à vivre sur le dos d'un peuple comme ça, et régulièrement.
Un mot sur les rapports par rapport à l'état des droits de l'homme au Congo.
Bon, j'ai lu attentivement ce rapport. Autant je constate un certain réalisme lorsqu'ils disent que le droit de l'homme, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, se détériorait depuis que le M23 a repris les hostilités. Autant j'accepte ça, autant je n'accepte pas le fait de dire en même temps qu'il y a aussi les FRDC qui commettent le même droit, c'est-à-dire prendre les FRDC, les mettre juste aux côtés de groupes armés et les accuser de la même façon. Vous savez, nous avons suivi, nous sommes journalistes, nous avons suivi en Irak, il est arrivé des soldats américains qui ont commis des actes. Mais ça n'a jamais été une accusation contre l'armée américaine. Mais ce sont ces individus-là qui, du reste, s'ils sont identifiés et punis, parce qu'il y a eu des Français, les gens étaient punis. Mais on ne doit pas continuer à ridiculiser une armée comme ça. Même, ils vont plus loin jusqu'aux élections. Ils disent que pendant les élections, il y a eu beaucoup plus de tracasseries de forces de sécurité contre les opposants. C'est faux et archi-faux. Ceux qui ont causé des infractions, ce sont des opposants contre la majorité. Et on a tué 6 militants de Palou. Il n'y a pas d'autres militants qui sont connus d'un autre parti qui ont été tués par d'autres militants.
Merci, Diana. Charles Mukendi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef par la radio-télévision de Bukassaï, mettant depuis Ndjimaï au Kassaï oriental. Comment les choses se passent dans la ville de Ndjimaï? Est-ce que là aussi les médecins sont en grève?
Oui, les médecins sont en grève. Et la plus grande question, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux de l'État. Ils sont rares, c'est plutôt de privé. Mais ce qui préoccupe toute la population ici, c'est le regain de l'insécurité et de la criminalité il n'y a pas deux ou trois jours, on a dénombré à peu près plusieurs cas de banditisme. Il y a même un voleur, la population s'est rendue justice. Il y a eu un voleur qui a été tué parce qu'on l'a arrêté, on l'a attrapé par les gens du quartier du Kumba dans la commune du Kitundu. Alors là, il a été tué et les images sont très atroces. C'est un peu ça la suppose. Hier soir déjà, il y en a qui ont des bandits qui ont dévalisé un commerçant, un petit commerçant dans le coin de rue, plus près de chez lui. Il y a eu fusillade vers 20h30, vous imaginez. Alors c'est un peu ça la préoccupation de la population de Boujimaï aujourd'hui, cette question-là. Et aussi, il y a cet arrêté du Premier ministre qui, en fait, donne une grande partie du nord du Kasaï oriental. Le territoire des Kamanga, une grande partie, est attribuée à la province Kasaï-Occidentale. Donc, on est en train de revoir les limites. Les gens sont un peu debout, on parle, on croit à qui la faute, on ne comprend pas très bien. La première fois, c'était à l'époque de Mungito, du premier ministre Mungito. Il y a eu ça. Il y a eu, on est arrivé, on a négocié et on a rapporté l'arrêté. Maintenant, on recommence. L'arrêté, un nouvel arrêté du Premier ministre, citant des nouvelles limites pour le café.
Merci. Notre premier point de ce soir, 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans son discours, le président Joseph Kabila demande des sanctions à l'endroit des États qui violent la souveraineté des autres États. Le président de la République démocratique du Congo l'a déclaré mercredi dernier à la tribune de la 68e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis. Joseph Kabila salue par ailleurs l'implication du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, pour la recherche de la paix à travers le monde et en particulier en RDC. Le discours du président de la République a été transmis sur la télévision nationale. En voici un extrait.
L'avènement d'une paix durable dans la région dépend de deux conditions majeures. La fin de l'impunité sous toutes ses formes, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre diligente. Les autres signataires de l'accord cadre, les engagements qui leur incombent au terme du dit accord. Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le violent est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive.
Fidel Moussangou, quelle analyse vous faites du discours du chef de l'État?
Le discours du chef de l'État, encore une fois, a été fade. Inodore, incolore, insipide.
Pourquoi fade, inodore, incolore, insipide?
À côté de la question et sous le plan de la forme du fond. Sur le plan, disons, de la forme, quelqu'un dont le pays est agressé chaque seconde. Chaque seconde, il y a une femme congolaise qui est volée à l'est par des Rwandais, des Ougandais. Et leurs suppôts locaux, ils ne peuvent pas prendre un tel ton. Ils doivent prendre un ton. Rappelez-vous, Mobutu, quand ils rompent les relations avec Israël, c'est un ton autoritaire. Toute la salle est montée du coup. Rappelez-vous, Mobutu, il a dit, voilà, entre un ami et un frère, le choix est clair. Il a choisi son frère.
Pourtant, il y a des gens qui pensent que le temps est changé.
Ça n'a pas changé. Sauf quelques phrases où il revient à des sentiments. Tous les pays du monde sont accueillants. Même le Rwanda a accueilli des réfugiés congolais qui sont là. Un point de discordance avec les M23, une revendication faible. Tous les pays accueillent. Même si nous avons accueilli les Hutus, les Tutsis d'abord. Ça, on ne rentre pas là-dedans. Le problème, c'est de dire, voici, moi je suis acteur. L'AFDEL est venu. Au départ, on disait c'est une affaire congolo-congolaise. Mais quand le monde entier a découvert ces militaires rwandais, le Rwanda a dit je pourchasse l'Instagram. Pendant une année, 7 mois. Ils n'ont pas pourchassé l'Instagram.
Alors, vous avez évoqué la forme, vous parlez
de la forme d'abord.
Le
fond, il devait donner les causes. Il dit voici l'historique. Je suis un acteur. Pour l'AFDEL, le Rwanda avait dit une affaire congolo-congolaise. Mais quand on a découvert que c'est l'armée rwandaise, on poussa à l'Interam. 12 mois après, ils n'ont rien fait. Ils ont cherché à prendre le pouvoir à tuer mon père. Ils créent le RCD quand mon père rompt l'assistance militaire avec le Rwanda. Donc, on chasse les militaires rwandais, ils arrivent à Goma, ils prennent en otage un avion civil. Ils y mettent des militaires, c'est une version du droit humanitaire international. Ils viennent faire un raid à Kitona. Ils tuent les gens. Pire qu'ils chassent le peuple du Palou et de l'Université
de tout ça.
Ils donnent l'historique de l'agression. Pour me dire que c'est une agression qui n'a pas de raison. Chasser les Interamens, mais viennent à Kinshasa, au Bas-Congo. Les Interamens sont allés.
Ils ont rappelé que c'est une agression là pour tout le monde.
Non, c'est lui qui est victime. Il doit dire voilà, pendant 5 ans, le soi-disant HCD, à ce qu'il y a la mer rwandaise, a occupé l'Est. Là, les Interamens, ils n'ont pas terminé ce problème. Ensuite, quand nous avons fait Sand City, nous avons dit que chaque parti va éliminer. Le HCD qui a administré le Nord Kivu, le Sud Kivu, n'a pas terminé les Interamens. Ensuite, en mars 2009, ils signent des contrats, des accords secrets avec Kigali pour des opérations militaires conjointes. Ils terminent, et au passage, on élimine les Kigali Kamere. Ils terminent, on dit tout est fait. Ce n'est pas fini. Le même 23. Alors, ça fait un pays qui fait 4 agressions.
Il rappelle l'histoire.
Ils ont le fait. Ensuite, ils rappellent le rapport de Human Rights Watch, qui dit que c'est le Rwanda qui arme, finance les rébellions depuis l'avant. Deux, le rapport de l'International Crisis Group, la MONUSCO, l'ONU, et sans compter les médias, voici des preuves qu'il avance. Maintenant, quand il dit, voilà, on doit sanctionner. Non, il doit dire, moi, Joseph Kabila, garant de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale, voilà, je porte plainte à la CPI contre le Rwanda, l'Ouganda.
Mais pas qu'il est, il est président de la République, c'est-à-dire qu'il doit avoir un discours qui ne doit pas s'apparenter.
Pas ça.
C'est lui
l'élément qui déplaît les mouvements de plus. Pourquoi Joseph Kabila, président de la République, va serrer la main de Kagame? Pourquoi Kabila va à Kampala serrer la main de Museveni? Vous savez que ça montre ce qui est pas une guerre. C'est un discours fade, inodore, incolore, il est tapé à côté de la question.
Merci Joachim Diana, le chef d'État a tapé à côté par rapport à ce discours. Moussango évoque la forme ainsi que les fonds.
Bon, la forme, c'est que vous savez que nous sommes dans un studio d'une émission qui a un temps imparti. Et lorsque vous donnez la parole à Moussango, vous lui donnez un temps d'intervention. Mais qui est prêt, si vous l'intervenez, d'aller jusqu'au-delà? Et il pense que le président de la République, lorsqu'il arrive devant le forum, il a tout le temps, il peut raconter n'importe quoi. Nous savons, je ne sais pas qu'il a 20 minutes pour le dire, et qu'il y a des exigences diplomatiques qui sont là-bas. Il y a un langage qu'il faut tenir, et que si lui ne sait pas ça, il attendra le jour où il sera président de la République pour comprendre comment ça se passe. Mais pour le moment, ça ne sert à rien de parler. Le chef de l'État n'aurait pas épinglé le Rwanda. Aujourd'hui, le discours, c'est qu'il n'a même pas cité le Rwanda. Alors, je pensais que, puisque le Rwanda a été cité, directement épinglé, et que la guerre devrait prendre fin, parce qu'ils estiment que ce sera l'objectif. Et on pense que le président de la République est allé presser aux païens, aux inconvertis. Non. Mais les membres de l'ONU, le Conseil de sécurité, combien de fois qu'ils ont comme rapport de leurs propres experts? Donc, ils ne sont pas des activistes qui sont là, qui n'apprennent rien, et il faut aller tout leur apprendre, tout.
Donc, il est nécessaire de rappeler une fois que tout cela a été contenu dans les rapports des experts de la Nations
Unies. Il y avait un thème. Il fallait d'abord parler de ce thème. Et profitant de ce thème qui était, il faut planter le décor pour après 2015, et là, il le rappelle, disons, nous ne pouvons pas planter le décor de ce thème si, dans des pays comme le nôtre, où il y a des gens qui peuvent violer n'importe comment.
Et comment vous avez vu le discours là? C'était un discours approprié, n'est-ce pas, adapté aux circonstances?
Le discours a été très approprié, et le ton, et le contenu et la forme, tout il était parce que les circonstances s'y prêtaient, les discours étaient très adaptés à la circonstance et les gens ont bien compris. La preuve, l'arrivée de la presse que vous venez de lire tout à l'heure, c'est pour la première fois que toute la presse, même son propre journal, est allé dans le sens de moyen que cette fois le chef de l'État l'a fait. Là, il est le seul, même le jour d'après-midi, et Joseph Kabila a inventé un médicament pour les soldats, les gens d'héritier, ne croira pas, il est libre.
Merci, c'est Alain Montelli. Quelle analyse vous faites du discours de Joseph Kabila à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies?
Bien, moi je me dis, ces discours, c'est pour la consommation internationale, pour les coutumes diplomatiques, les salons du fait, comme ils annonçaient là. Mais imaginez quelqu'un, un Congolais qui est à l'est de la République, qui souffre des douleurs, des affres de la guerre. Vous imaginez que ces discours lui apportent quelque chose, un plus? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas que les discours, on en avait encore besoin. Au Congo, on a besoin d'un peu plus. On a besoin de voir réellement comment notre État s'implique pour faire arrêter la guerre. Parce que, en fait, la communauté internationale, vous l'avez rappelé, de contraire l'ont rappelé là-bas, la communauté internationale connaît très bien l'ONU, on sait, il y a eu des rapports, des experts ont déposé des rapports sur, l'agression de la République démocratique du Congo. Il n'était plus tellement nécessaire de le rappeler. Mais ce qui était important, c'est que nous, Congolais, nous attendons, c'est de voir comment nous pouvons en finir une fois pour toutes avec cette affaire de l'agression de l'Est. Ça fait plus ou moins 14 ans qu'on en est là. Ce n'est pas intéressant pour la population. Je ne pense pas qu'on ait besoin du discours aujourd'hui. Ce n'est pas ça que le peuple de Goma attend. Ce n'est pas les discours qu'on attend à Rutshuru. On attend beaucoup plus d'action du chef de l'État sur le terrain.
Kidem Moussangou, le chef de l'État l'a appelé dans son discours à la Conseil internationale de pouvoir sanctionner les États qui violent la souveraineté des autres États. Et dans votre journal, Les Phares, n'est-ce pas, vous dites que le jour où on passe aux sanctions, et ce jour-là, le peuple congolais va retrouver la paix.
C'est vrai, au contraire.
Ça, c'est Les Phares, votre journal.
Non, non, je prends des pauses. L'Eskimo, qui doit son igloo, là, quelque part vers le Groenland, il prend sa tasse de café. À côté de sa femme, il suit le discours de Joseph Kabila. Il conclut que bon, c'est vrai, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Les gens ne meurent pas. À côté, la compagne de François Hollande a clairement dit, il était à la compagnie de son mari, elle a dit que ce qui se passe à l'Est dépasse le génocide. En tant que femme mère, elle a été là, elle était scandalisée. Comme Hillary Clinton, qui a même pleuré, les témoignages des femmes qui sont violées chaque jour. Parce que, écoutez, dans les cultures, partout, qui va faire le chant? Ce sont les femmes. Oh, les violeurs attendent les femmes au chant. Et si les femmes ne font pas le chant, les enfants ne vont pas manger. Oui, donc, alors, Madame Travers, c'est ça, est scandalisée. Mais à côté, le président qui est la victime, pas des mots là-dessus. Et non, lui, les siens sont ici. Mais ceux qui sont violés, ça vous, ils n'en parlent pas. Ils discutent, ils discutent. Et puis le comportement, il ne peut pas aller dire bonjour à Kagame, jamais. Il énerve les Congolais.
Kidem Moussangou, nous sommes dans une communauté, n'est-ce pas? Les Congolais n'est pas seuls, on est dans une communauté internationale.
Oui, mais.
Et tout ce que nous nous posons comme acte, nous devons tenir compte de cette communauté internationale, nos partenaires.
Confrère, quand Kagame parle du Congo, il dit que les Congolais hébergent les gens qui ont tué les Tutsis en 1994. Voyez-vous, et ils donnent des preuves que nous leur donnons bêtement. Mais nous pouvons dire non, ils racontent des histoires, ça dit là-bas. Il y a l'AFDEC. Le SCD, le CNDP, le contraire, toutes ces agressions se poussent en Russie et voulant prendre le pouvoir à Kinshasa. Il faut dire des faits de paix, et Kabila en a des millions, d'autre part aussi. Parce qu'il faut frapper ceux qui élisent les dirigeants. Quand vous voulez frapper la communauté, vous allez frapper l'intelligence de ces, des électeurs. Comme ça, il dit non, vous là, vous laissez les Rwandais continuer le génocide au Congo. Ce sont eux qui portent les hommes politiques. Mais quand les populations européennes disent même au Congo, tout va bien, et puis le discours de Kagame est beaucoup plus préoccupant, on donne raison à Kagame.
Merci, Joachim. Diana Charles Mukendi affirme que ce discours a été fait pour la consommation internationale et que pour lui, ce qui est important, c'est de voir comment mettre un terme, n'est-ce pas, à cette guerre qui se vit dans l'est de la RDC.
Mais je suis surpris, il aurait voulu que ce discours soit fait pour qui? Un discours qui est fait à l'Assemblée générale de l'ONU, devant des présidents qui sont venus du monde entier, devant des journalistes qui sont venus du monde entier, il aurait voulu que nous fassions le discours pour la population de Mbujimayi. Nous, il y a des circonstances pour parler aux populations de Mbujimayi, notamment il y a les concertations, il y a ceci, là, le gouverneur Kassane, je dis pas, mais le chef de l'État ne doit pas choisir à faire un discours pendant qu'il est à l'ONU à penser le problème de chacun, de n'importe qui, et tout ça, il fait un discours qui est adapté à celui-là. Et même lorsque le contraire dit aussi que ce n'est pas des discours que nous avons besoin. Mais c'est l'ONU qui a demandé qu'il y ait des discours. Joseph Kabila n'a pas dit je vais aller faire le discours à l'ONU, et les militaires mettez-vous en congé de fausses alarmes. Pendant qu'il est à New York, vous avez appris qu'il y a des militaires blessés, qu'il y a des rebelles tués. Mais moi, je pense que nous devons ramener le débat. Comme journaliste en vrai débat, plutôt que de sortir des données de convenances personnelles qui n'ont aucun sens lorsque nous parlons devant une radio aussi respectueuse que celle-ci.
Alors, rappelez-vous, de point de vue selon lequel ce ne sont pas des discours qui vont, n'est-ce pas, modifier les rapports de force sur le terrain.
Mais les discours ne remplacent pas l'arme et ce n'est pas parce qu'on fait des discours qu'il n'y a pas d'arme, on ne se bat pas. Il y a eu la diplomatie lorsqu'il est allé. Est-ce qu'il a pris un seul discours de la réunion? Il y a eu d'abord une réunion entre la RDC
et l'ONU. Il y a eu une autre réunion entre la RDC et l'OIF, donc l'organisation de là-bas même à New York, toutes ces rencontres là-bas, ce sont des discours, non. Et le, tout le militaire qui meurt à l'Est là-bas, il meurt parce qu'ils ont parlé.
Ça a entendu, si le chef d'État Joseph Kabila avait cité le nom des pays agresseurs, à votre avis, ça aurait changé quoi?
Je ne pense pas à l'illusion, il a cité l'exemple des pays dont notre pays a accueilli les ressortissants. C'est clair qu'il s'agit là du Rwanda, et je ne vois pas seulement la réalité qu'il avait à citer. Mais il aurait dû quand même commenter qu'il en a marre de taper sur la table pour dire effectivement que le Rwanda, ça ne gêne pas. Je suis dit, il a fait la quitté de la Tanzanie au moment où il a quitté le Rwanda, il a demandé que le Rwanda et l'Ouganda doivent faire des négociations, des dialogues avec leur rébellion. Et on a senti, quand les autres ont fait des levées de boucliers, on a senti de la Tanzanie, que en fait, les Tanzaniens ne sont pas allés de manière dangereuse. Ils sont allés de manière ferme et ils ont dit aux Rwandais que s'ils venaient, voilà ce qui nous attendait. Donc, moi, je ne pense pas qu'on devait se gêner pour dire ces choses-là. Je parle en tant que Congolais. Je ne peux pas prendre la casquette des diplomates qui sont à l'ONU, qui ne vivent pas ce que je vis au Congo, qui ne vivent pas la réalité que les gens vivent à Bukavu, à Goma, à Rutshuru. Non, je parle en tant que Congolais, donc le bruit dans ma chair, c'est cette agression. Et je ne peux pas, moi, me substituer, prendre la casaque des diplomates et dire que c'est très très bon les discours, non. Pour nous, les Congolais, nous n'avons pas besoin de l'autre. En fait, j'ai compris à un moment qu'il y avait un problème. Même quand on dit qu'il a demandé qu'on intervienne pour condamner les États qui agressent les autres, qui ne respectent pas le droit international. Mais c'est cette agression qu'on a compris. Depuis longtemps, depuis 1994. Et quand on prend l'expérience de la FN qui a amené le régime du président actuel au pouvoir, et on sent que quand on condamne les autres pour avoir agressé, et sous les taux de la même agression qu'on est arrivé, parfois il est, on comprend pourquoi.
Merci, Salom Kondi. Merci, Salom Kondi. Fidèle Moussangou, à votre avis, la solution à la guerre qui se vit dans l'Est passe parfois. Le chef d'État a proposé, il dit, il a évoqué deux conditions. La première, c'est le respect des engagements pris au terme de l'accord au cadre d'Addis Abeba. Et la deuxième condition, c'est la fin de l'impunité dans la région du Nalak.
Écoutez, le droit international n'est pas coercitif. Malgré la présence du Conseil de sécurité, là où il y a parfois des interventions de puissances membres du Conseil de sécurité avec droit de veto en faveur de tel ou tel État. Rédactif, ce n'est pas sensible. Le rapport entre États est basé sur le rapport de force. Quand vous êtes fort, on vous respecte faible, on vous casse la gueule.
Donc la solution, c'est une approche militaire.
Il y a d'abord l'approche militaire. Kabila, il doit répondre dans le jour de cela. En 11 ans de pouvoir, il n'a pas créé l'armée, ni le Conseil de sécurité.
Il n'est pas le conseil en cours de réforme.
Ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Et lui, en tant que militaire, il devait savoir qu'il faut une armée. Deuxièmement, il y a le front diplomatique. C'est FAD. Par sa bouche d'ailleurs.
Mais c'est tout le monde qui parle
de la réunification de la diplomatie. Là, on aurait le domaine politique interne. Il devait créer un front interne.
Il y a des conversations qui sont en cours.
C'est la vaste comédie là-bas. Quatrièmement, il y a le domaine judiciaire. Regardez, notre compatriote Bemba est à l'AE.
La justice est en cours de réponse.
Je pose une question. Notre compatriote Jean-Pierre Bemba est à l'AE sur la base d'une accusation du gouvernement de la République centrafricaine, sur base d'un rapport des IA. Et au fur et à mesure, le procès avance. On se rend compte que le fameux Bouzizé, qui a pris comme un lapin, est lui-même plus génocidaire que Jean-Pierre Bemba. Qui est la famille. Alors, c'est pour dire ceci. Nous pouvons aussi mettre Kagame, Museveni, les officiers rwandais là, devant la CPI, comme on a dit Kagame. Mais nous, nous sommes là, comme des spectateurs, on viole, on tue,
merci,
et
nous commençons à penser devant la population. Merci, M. la solution, à votre avis, c'est quoi?
Bon, vous savez que j'ai entendu des confrères qui parlent d'un mouvement et que c'est depuis 14 ans que ce problème, je lui dirais que non, depuis l'époque belge. Il y a le problème, si il a l'habitude de dire qu'il dise les mémoires de Léopold II, qui à l'époque déjà
demandé à la communauté internationale de cette époque pour dire que jamais assez de petits coups dans petits voisins. Et à l'époque, le Rwanda n'était qu'une colonie allemande. Et déjà, la Belgique se plaignait.
Et la solution à votre avis?
La solution aujourd'hui, c'est qu'on doit démocratiser le Rwanda. Vous vous rendez compte que le Rwanda serait un État démocratique, l'Ouganda serait un État démocratique, nous ne serions pas devant ce problème-là. Ces États-là vivent encore l'époque d'avant 1990, et ils sont de petits dictateurs curieusement adulés par la communauté internationale. Mais on doit démocratiser ce pays et faire le dialogue, comme l'a dit Tshisekedi, le dialogue entre le rebelle, qui gagne aussi à ce rebelle, et l'Ouganda aussi à ce rebelle qui passe le dialogue.
Merci. Salam Kundi, la solution à votre avis, Pierre Moussangou, lui, pense que la solution passe par une approche militaire, n'est-ce pas, par la RDC, et Joachim Jana lui pense qu'il faut démocratiser le Rwanda. À votre avis, la solution, c'est quoi?
Je pense que la République démocratique du Congo doit absolument se doter d'une armée forte, des institutions qui défendent ce pays. Et le problème, c'est tout cela. Donc, il n'y a pas à 15 à 14 heures. Et en fait, le problème, c'est que le pays se dote des institutions assez fortes qui consacrent tout pour avoir une armée pour défendre ce pays.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Concertation nationale, des avis continuent à diverger quant aux recommandations des uns et des autres dans les groupes thématiques et gouvernance. La pompe de discorde reste la question des gestions consensuelles de l'État. Concertation nationale, la première de mise en commun des conclusions du groupe thématique gouvernance n'a toujours pas eu lieu. Il y a eu des reports de suite, affirment les délégués de ces groupes. Selon les mêmes sources, des avis continuent à diverger quant aux recommandations des uns et des autres, et la forme de discorde reste la question des gestions consensuelles de l'État. Pour la majorité présidentielle, cette position estimée par l'opposition bloque l'issue RS de concertation nationale. Le porte-parole de la majorité au pouvoir, Lusanga Chamandevou, et au micro de Nini Ngumba.
Vous savez, cette opposition, nous sommes habitués à vivre avec. Croyez-nous, la majorité actuelle. Nous n'avons pas intérêt à chercher à partager le pouvoir avec cette opposition. C'est l'opposition qui demande. C'est l'opposition qui veut. Si, pour besoin, pour cause de la cohésion politiquement, nous verrons qu'est-ce qu'il veut faire. Je voulais d'abord vous rappeler que dans l'actuel gouvernement, il y a déjà deux grands piliers, deux grands ministres de l'opposition qui siègent dans ce gouvernement. Ça ne serait pas une nouveauté, mais certainement, à l'issue de ces assises, nos compatriotes de l'opposition, de la société civile, ceux qui peuvent regarder dans la même direction qui est Kabila, eh bien, nous verrons la possibilité d'élargir l'actuelle majorité présidentielle pour que nous soyons plus nombreux.
Côté opposition, l'on refuse de répondre. Jean-Pierre Lissanga Bonganga parle, lui, des accusations sans fondement. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Plus les concertations nationales tendent vers la fin, plus les divergences de vues se manifestent quant aux recommandations qui doivent faire l'objet des négociations dans les différentes plénières. Je n'ai pas encore commencé.
Oui, mais tout à fait, la première divergence c'est celle-là. Je ne suis pas de ceux qui étaient naïfs au point de croire que l'opposition a accepté d'aller aux concertations parce qu'elle aimait le peuple et qu'elle allait se battre pour résoudre certains problèmes. Non, les gens sont allés parce qu'ils croyaient qu'à la fin, il y aura ce partage du pouvoir. Non, mais ces gens-là se moquent bien du peuple congolais parce qu'ils savent très bien. Et toutes les fois qu'il y a eu partage du pouvoir, il y a eu partage de la classe politique, il y a eu manque de cohésion nationale. Il n'y a jamais un partage du pouvoir qui a mis tout le monde. La classe politique se partage quand elle partage le pouvoir. Il n'y a jamais de cohésion. Et donc, c'est pour dire que vous voyez, même autant du côté de la majorité, les gens étaient catégoriques, les non-catégoriques, pas de gouvernement d'union nationale, autant maintenant, c'est bien que vous venez de suivre les porte-parole. J'ai dit, bon, à la rigueur, parce qu'on peut accepter. Bon, mais parce que c'est le porte-parole de l'AMP, il va accepter l'ouverture, mais pour quel dividende, pour résoudre quel problème. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se sont battus pour qu'il y ait cette majorité-là. On dit, bon, ces gens-là, hein, pour les gens, la mettez-vous dehors, on prend sans on les met. Moi, je vais dans mon coin, je suis tranquille, je dis au nom de la cohésion, j'accepte que celui qui n'a rien fait profite de ce pouvoir. Et puis, qu'est-ce que la majorité va gagner en faisant ça?
Il y a certains représentants qui pensent que la cohésion nationale, n'est-ce pas, passe par la mise en place du gouvernement national.
Non, malheureusement. Et vous, qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale, effectivement, et qu'on mette une transition, et qu'après la transition, il n'y a plus de mandat qui tient. On repart à zéro. Je pense que ça, ça serait une justice, plutôt que de prendre des gens qui vont, on va les employer dans le gouvernement. Dès qu'on va arriver auprès de 2007, ils sortent, ils deviennent opposants, ils disent, ils ne vont pas participer au gouvernement.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur du journal Les Farces, c'est un quotidien qui parle ici à Kinshasa. L'opposition n'est pas allée aux consultations nationales pour apporter des solutions aux problèmes de la population qui est partie là pour chercher, n'est-ce pas, à faire partie de l'éventuel gouvernement d'union nationale selon Joachim Diana.
Écoutez, vous savez, lisez l'histoire du Congo que mon journal est en train de publier depuis 60 ans pour rappeler les gens leur propre patrimoine historique et politique. C'est toujours des chasseurs de primes. On assassine Lumumba. Au lieu de régler ce problème, non, on contourne à côté. Et on est tourné en rond pendant presque 4 ans. Finalement, on ne savait. Écoutez, Kinshasa, la guerre de l'Est, ce n'est pas son problème. Il s'est décidé le processus. Finalement, incapable de remettre l'intégrité territoriale du pays, ils sont allés chercher le sécessionniste, qui a compris qu'il fallait d'abord négocier et frapper. Il a dit à la rébellion, il a fait les choses, il a les gagnés. Les Kinois ont encore fait un coup pour le faire partir. Donc, nous ne sommes pas partis de l'auberge, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Si chaque fois qu'il y a une légitimité, les gens font le complot, cassent la légitimité des urnes et ils font une dictature. Nous sommes là. Kabila ne veut pas régler le problème de fond. Il n'y en a que deux. C'est le problème des élections de 2011, la raison pour laquelle on a chassé Ngoï Moulunga et son équipe, la raison pour laquelle, lorsqu'il a prêté serment, aucun chef d'État, à part le Zimbabwéen, même ça n'a pas fait le problème. Le deuxième problème, c'est quoi ça? C'est le problème, tout simplement, de l'Est. Cette fausse guerre-là, il faut creuser l'accès, il faut dire ce qui se passe à l'Est. Kabila ne les a pas comme tous. Ce sont les deux problèmes. Alors, la cohésion, c'est quoi? Les populations de l'Est qui n'ont plus confiance à Kinshasa, qui sont désabusées, et qui trouvent que le régime de Kinshasa et leurs complices sont des alliés du Rwanda, sont des complices. C'est ça, ils disent non, nous sommes des alliés. On ne se retrouve pas dans eux. C'est ça la fracture sociale. C'est ça la force de cohésion. Si vous voulez la cohésion, il faut regarder ce problème. L'examen, cette concertation nationale ne pouvait avoir que deux points l'ordre du jour. Examiner cette affaire des élections de 2011. Trouver une solution politique à partir des faits. Deuxième élément, examiner à fond cette affaire de l'Est. Faire parler tout le monde. Là, on allait casser l'histoire, la bêtise des Kampala. On dit, un, deux, trois.
Venez à Kinshasa. Vous pensez que ces deux questions ne sont pas débattues dans les...
Genre, ils peuvent faire toucher. Bon, ça. Ils y arrivent et puis ils se passent à côté. C'est qu'il n'y avait que deux points lors du jour. Ils n'ont pas voulu faire ça. Alors, c'est pour vous dire que ces concertations nationales, d'abord, humilient ceux qui croient. Ensuite, ne vont sortir qu'une souris puante.
Merci, Charles Moukendi. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef à la radio-télévision de Bukassaï, en étant depuis le journal de Kassaï oriental. C'est vraiment étonnant que ce soit l'opposition qui puisse, n'est-ce pas, proposer à la majorité et la mise en place de ce gouvernement d'union nationale. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas, Charles Moukendi?
C'est curieux, vous notez que dès le départ, le membre du Président, monsieur en l'occurrence le président Senghor, avait déjà annoncé qu'à la fin de ces concertations, on va avoir un gouvernement national. C'était déjà dit. Donc,
il avait mis cela au conditionnel, il avait dit qu'on pourrait avoir. Il avait mis cela au conditionnel.
C'était quelque chose qu'il avait un ballon de fait, et c'est ce qui a d'ailleurs fait que certains membres de l'opposition ont accouru au paquet, et certains, comme l'UNC de Vital Caméré, comme une défense de celle qui dit qu'on parle d'aller. Donc, ceux-là qui sont allés, certainement, qu'ils avaient dans leurs attentes, et c'est ce que un membre de l'opposition, pas le nôtre, qui a le président, qui a demandé, qui a dit, il y aurait un gouvernement à la fin de ce jour-ci. Et en fait, il y aurait des résolutions. Qui va appliquer ces résolutions? Si ce n'est pas un gouvernement issu des concertations nationales. Un gouvernement de cohésion nationale, comme il le dit, apparemment, paraît être le but de l'aboutissement de ces concertations, parce qu'on ne voit pas très bien comment un autre gouvernement pourrait appliquer les résolutions, les recommandations de ces assises.
Jacqueline Zena, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas opportunité de mettre en place un gouvernement d'union nationale, étant donné les efforts du gouvernement Matata. Il y a notamment, ensuite, la maîtrise du cadre macroéconomique, les 3B attribués au gouvernement par l'agence de notation Moody's pour ses performances économiques, la bancarisation, la fibre optique, la redynamisation de la diplomatie, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui, n'est-ce pas, de mettre en place un gouvernement d'union nationale?
En fait, moi je dis qu'il n'y a pas opportunité de mettre en place un gouvernement d'union nationale, et surtout, mais pas pour des raisons que vous avancez ici. J'ai toujours dit, je suis de ceux qui disent, j'aime bien être objectif sur ce point, que si tout ce que vous venez de citer ici a été fait par le gouvernement Matata, en moins d'un an, mais c'est qu'en 5 ans, le Congo peut devenir un pays émergent.
Donc, le tort
du gouvernement Matata, c'est d'avoir cru qu'il a fait une alternance, ainsi de suite. C'est son gouvernement de continuité. Le cadre macroéconomique, ce n'est pas avec Matata qu'on a parlé. Matata était encore au finance lorsqu'on a parlé de cadre macroéconomique. Aujourd'hui, si le gouvernement Matata peut construire des écoles de construire, mais c'est parce qu'on a allégé la dette extérieure, et ce n'est pas aujourd'hui que ça s'est fait.
Il y a le principe de la continuité de
l'État. Tout à fait, surtout de la continuité du régime. C'est pourquoi j'entends très mal le mot à ce pour la première fois qu'on fait ce pour la première fois. Mais Kabila au pouvoir depuis 2001, et pour la première fois, et c'est pas je crains que demain on aura un autre Kamel pour dire que c'est moi qui ai fait, alors qu'il est venu trouver des efforts dans lesquels il s'est inséré et lui fait bien ce travail-là. Et j'aimerais bien qu'on le laisse le faire.
Merci. Fidel Moussango, pensez-vous qu'il y a opportunité de mettre en place un gouvernement national aujourd'hui?
Écoutez, il ne faut pas ce qu'on appelle aller des Caraïbes en Syrie. Remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, tout comme des saints.
Mais c'est pas important.
Non. Vous chassez Matata avec son équipe. Vous donnez d'autres qu'un ou ses amis. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Les questions de fond demeurent, il n'y en a que deux. Le problème de la crise de légitimité, issue de ces fausses élections de 2011, et le problème de la guerre de l'Est, la fausse guerre de l'Est. Si on ne résout pas ça, on peut garder Matata. Je veux garder Matata. Parce que si on amène un autre, ça fait des dépenses, et puis, et il faudra. C'est pour faire plaisir à ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Notamment, particulièrement celui qui me fait mal au cœur, c'est Léon Kengouazo.
On ne cite pas les noms des gens.
Moi, je cite parce qu'il faut le dire, parce que l'histoire est là.
On n'est pas là pour ces
gens. Non, il est acteur politique. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un se dit opposant. Il est devenu poli, il obéit au doigt à l'œil de celui qui est censé le
matin. Il est président d'une institution.
Non, il devait faire la différence pour lui. Je suis de l'opposition, mais c'est le président, voici le problème. Mais si on n'est pas d'accord, il s'en va. Mais si maintenant il devient, il va faire des recommandations, on donne au grand Dieu, Laurent et Joseph Kabila, qui dit, bon, ça, je ne veux pas, alors il n'est pas opposant.
Mais c'est Issa Moukendi, pensez-vous qu'il y a opportunité aujourd'hui, n'est-ce pas, de mettre en place un gouvernement d'union nationale?
Non, parce que l'objectif des concertations, ce n'était pas d'aboutir à cela, mais plutôt amener la détente dans le pays, faciliter le pays. Mais si on arrive à un gouvernement, c'est ce qu'on a fait. On a éclairé à peine des questions, je ne sais pas, je vais peut-être attendre les rapports final, mais j'ai l'impression que ces concertations, on n'est pas allé au fond des choses, on n'a pas vraiment aidé la paix, on n'a pas dit ce qu'il fallait, et je me demande, à cet état des choses, un gouvernement, ce qu'il viendrait faire. C'est tout simplement de l'égoïsme du politicien congolais juste. Parce que les Congolais, les politiciens, ce sont des juteurs, ils pensent qu'il faut aller au pouvoir vite pour prendre de l'argent et de la population malheureuse.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Alain Hiron à la réalisation, sous la supervision de Martin Kémoujangoué, devant ce micro Guy Marquet. La rediffusion de l'émission, c'est demain à 4h15, heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Kapi.